session d'initiation à la théologie à Rimont, 2 novembre 1989, la révélation.
Comme le sujet c'est la révélation, je peux me cantonner au chapitre 1. Alors je pourrais tenir mon programme, mais s'il faut s'attaquer à la constitution, alors ça c'est autre chose. Alors, on a vu cette longue préparation évangélique de la révélation évangélique dans l'Ancien Testament qui s'achève dans la révélation du Christ. Alors je voudrais relire avec vous ce numéro 4 qui est important. Après avoir, de fait, à bien des reprises et sous bien des formes parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il envoya, en effet, son Fils, c'est-à-dire le Verbe éternel qui éclaire tous les hommes, pour qu'ils demeurent parmi les hommes et leur fassent connaître les profondeurs de Dieu. Voilà la finalité de l'incarnation. Qu'il demeure parmi nous et nous fasse connaître les profondeurs de Dieu. Jésus-Christ donc, parole faite chair, homme envoyé par les hommes, vers les hommes, prononce les paroles de Dieu. Il prononce les paroles de Dieu et consomme l'œuvre salutaire que le Père lui a donné à faire. C'est ce que nous avons vu ce matin. C'est pourquoi lui-même qui le voit, voit aussi le Père. Partout, donc lui-même en tant qu'il est Dieu, par toute sa présence et la manifestation de lui-même, par ses paroles et ses œuvres, par ses signes et ses miracles, mais surtout par sa mort et sa glorieuse résurrection d'entre les morts, par l'Esprit de vérité enfin envoyé, achève la révélation en l'accomplissant et confirme par témoignage divin que Dieu est avec nous pour nous libérer des ténèbres, du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. J'ai insisté ce matin sur nous libérer du péché et nous ressusciter pour la vie éternelle. Les deux aspects de la révélation. Révélation et salut, c'est lié, n'est-ce pas? Mais ce que je voulais insister, c'est par toute sa présence et la manifestation de lui-même, l'épiphanie, par ses paroles et ses œuvres, ses signes et ses miracles, et surtout sa mort et sa glorieuse résurrection. Mais les actes du Christ, les actes du Christ, beaucoup plus que ses paroles. Regardez, ça, bien sûr, il y a les paroles, mais c'est sa présence, sa manifestation, ses paroles et ses œuvres, ses signes, ses miracles, et surtout sa mort et sa glorieuse résurrection d'entre les morts. Donc on souligne, n'est-ce pas, le mystère de l'incarnation, où c'est la parole faite chair, ce qui compte, c'est le fait chair plus que la parole. Ce qui compte, c'est qu'il nous est communiqué dans son être, dans ce qu'il est. Dans l'Eucharistie, on voit bien, Jésus dit, voici mon corps, ceci est mon corps, ou ceci est mon sang. Le réalisme. Le réalisme de la révélation va jusque-là. Dieu nous parle dans l'humanité sainte de Jésus. Ça fait penser à ce que dit sainte Thérèse d'Avila. Il n'y a pas d'autre voie pour aller à Dieu que cette voie de l'humanité sainte de Jésus. Pas la peine d'en chercher une autre. Il faut passer par le Dieu fait homme qu'est Jésus. Il faut passer par la personne même de Jésus. L'économie chrétienne, donc, étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera jamais, et aucune nouvelle révélation publique n'est plus à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Public, pour le distinguer de privé. Hein? Non ? C'est Maria Valtorta, par exemple. C'est une révélation privée qui ne peut être lue qu'à la lumière de la révélation de Jésus. C'est là qu'il aurait fallu lire le passage de la montée du Carmel, hein, où Saint Jean de la Croix, au chapitre 2, au livre 2, Saint Jean de la Croix prend tout un chapitre pour dire mais que celui qui accueille le Christ mais n'a plus rien à attendre d'autre. Dieu a parlé. Il a parlé en son Fils. Il n'y a plus d'autres paroles à attendre. Il n'y a plus d'autres révélations à attendre. Nous attendons. Vous voyez, nous croyons. Vous voyez, on prend l'exemple de Maria Valtorta, hein, ce livre sur la vie de Jésus, qui peut aider beaucoup à découvrir le réalisme de Jésus. Mais nous croyons que c'est par ce qu'on va nous dire qu'on rentrera dans la révélation de Dieu. Non, la révélation de Dieu n'est pas un savoir, elle est la communion à une personne, qui est Jésus. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas d'intimité avec Dieu, il n'y a pas de connaissance de Dieu qui ne passe par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin pour aller au Père. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de livre qui vous parleront de Dieu. Il n'y a que le Christ. Il n'y a pas de prédication. La prédication référera à Jésus. C'est le Christ lui-même qui est la voie, la vérité et la vie. C'est lui qui nous parle avec adéquation par ce qu'il est. Et donc, la révélation est achevée en Jésus. Voilà ce qu'il faut dire. L'Ancien Testament a été une préparation pour disposer l'homme à accueillir le Christ, qui a été comme une longue éducation du peuple d'Israël pour disposer l'homme à accueillir Jésus. Mais à partir de l'incarnation, il n'y a plus à entendre de parole de Dieu. Hein? Jésus est donné, la parole est donnée, Dieu est donné. Donc toute la révélation, tout l'Ancien Testament s'achève dans le Christ. Ce qui nous fait comprendre que tout l'Ancien Testament doit nous conduire à Jésus. Il est donc une pédagogie, hein, depuis la Genèse jusqu'à Jean-Baptiste, hein, qui reste de l'Ancien Testament. Hein. Il y a comme une longue pédagogie pour accueillir le Christ. Voilà, révélation définitive. Le Nouveau Testament n'est pas un deuxième testament, comme si on avait un troisième, un quatrième, un cinquième. C'est là, vous voyez, que se distingue le plus. Vous savez, les musulmans spécialement, hein, font référence à cette parole de Jésus, « Je vous enverrai un autre paraclet qui vous conduira vers la vérité tout entière. » Pour dire, cet autre paraclet, ben, hein, c'est Mahomet. Alors, nous pourrions dire, nous dirons, n'est-ce pas, que le don de l'esprit de vérité nous est donné pour aller jusqu'au bout de la connaissance du Christ. C'est de mon bien qu'il prendra. D'une certaine manière, l'esprit vous fera connaître tout ce que je vous ai dit. Et il vous conduira vers la vérité tout entière, c'est-à-dire, il vous fera rentrer dans la pleine vérité du mystère du Christ. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas rencontrer le Christ. Ce que dit Saint Paul. Sans l'Esprit Saint, nous ne savons pas prier comme il faut. Donc, vous voyez, si on veut parler de la révélation chrétienne, On dira cette initiative de Dieu qui a manifesté en Jésus son dessein de salut pour les hommes. Et cette initiative invraisemblable de Dieu qui en Jésus, cet homme dans l'histoire, qui est notre Dieu, a manifesté son dessein, son amour, son regard sur les hommes, sa volonté de salut sur les hommes. Voilà le mystère de la révélation chrétienne. Initiative de Dieu. Alors, initiative de Dieu qui n'est pas quelconque. C'est une initiative, dira numéro 5, qui réclame de nous l'obéissance de la foi. Et jusqu'à maintenant, on a vu ce que Dieu fait. Eh bien, d'une certaine manière, ces paroles, ces passages, n'est-ce pas, où on nous montrait qu'il voulait converser avec nous et nous inviter à cette communion avec lui et nous recevoir à sa table, demande et réclame de nous une réponse. Il a l'initiative, mais il attend de nous une réponse. Et c'est le numéro 5. À Dieu qui révèle, il faut rendre l'obéissance de la foi. Encore une fois, on n'obéit pas à l'Église, c'est à Dieu. À Dieu qui révèle, il faut rendre l'obéissance de la foi. On obéit à Dieu. Par laquelle, qu'est-ce que c'est que la foi pour le Concile ? L'homme se remet tout entier, librement, à Dieu, donnant à Dieu qui révèle pleine soumission de l'intelligence et de la volonté, et adhérant volontairement à la révélation qu'il nous a faite. Ah, vous voyez, c'est pas la foi quelconque, hein, c'est bien sûr la foi vivante qui est en question là. C'est pas une foi morte, c'est pas la foi, comme on peut dire, séparée de la charité. C'est une foi qui est connaissance aimante. Donc, ce qui est dû au mystère de la révélation de Dieu, c'est cette obéissance de la foi. Et là, on prend l'épître aux Romains, hein, qui parle de cette fameuse obéissance. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi ? La foi, elle est à la fois, elle est et don et assentiment. Elle est un don de nous-mêmes et en même temps un assentiment de l'intelligence. C'est pas simplement l'intelligence. Celui qui croit, c'est pas simplement qu'il dit oui, j'accepte, je comprends. Il y a une nécessité d'un don de lui-même. C'est pourquoi il faut l'amour. Par laquelle, donc la foi, l'homme se remet tout entier, hein, librement à Dieu, donnant à Dieu qui révèle, hein, ceux qui connaissent la définition de saint Thomas, Deus ut revelans, en tant qu'il révèle, en tant qu'il se fait connaître. Donc à Dieu qui révèle, pleine soumission de l'intelligence. Pas de ma morte. Pleine soumission de l'intelligence. Et de la volonté. Voilà le don que nous faisons à Dieu par la foi. Voilà le sacrifice spirituel qui plaît à Dieu. L'offrande qui plaît à Dieu, c'est le don de notre intelligence et de notre volonté. Là, je crois bien que c'est la référence au Concile de Trente. Vous avez peut-être le numéro 1. Concile Vatican 1, pardon. Alors, vous voyez, la foi Là, je crois que Frère Samuel vous en parlera demain. C'est pour ça que je ne veux pas trop insister, mais il est très important de voir en elle cette pleine offrande de notre intelligence et de notre volonté, c'est-à-dire à Dieu. À l'homme, on ne peut pas soumettre pleinement notre intelligence. Impossible. Mais c'est possible à Dieu. Idem pour la volonté. Mais ce que je voulais souligner, c'est ce double mouvement qui est l'intelligence qui... Il y a un assentiment. Elle dit le Amen. Hein, elle croit, mais ce n'est pas passif. Elle doit adhérer. Elle doit adhérer. Ça ne se fait pas d'un coup. Hein. C'est petit à petit que l'intelligence adhère. C'est petit à petit que l'intelligence se laisse pleinement sous la mouvance de la grâce. Mais la foi exige ce plein assentiment de l'intelligence. On peut dire telle chose, là, plein assentiment, il n'y est pas. C'est pas, ça ne va pas. Hein. Ben, ça veut dire qu'il y a du chemin à faire, quoi. C'est tout. Vous ne pouvez pas mettre ça de côté. Vous ne pouvez pas mettre un dogme de côté. Il faut le plein assentiment de l'intelligence. Ça ne se fera pas d'un coup. Hein. Ça se fera par un lent labeur, hein, ou d'ouverture de notre intelligence et de notre vie à la grâce. Mais voilà en tous les cas la réponse que réclame la révélation de Dieu. Par là, on adhère volontairement à la révélation que Dieu nous a faite. C'est une adhésion volontaire, ce n'est pas une soumission d'esclave. C'est vraiment un choix, on est des amis. C'est une... Vous voyez, il y a vraiment la communication d'un secret et donc il y a une adhésion volontaire, il y a une participation. Cette foi pourrait être offerte, alors qu'est-ce qui la rend possible? Vous voyez, la foi est offrande. La foi est une offrande. La foi, pour être offerte, requiert la grâce prévenante et adjuvante de Dieu. Prévenante, c'est-à-dire qui précède l'homme, adjuvante, qui accompagne, et des secours intérieurs de l'Esprit Saint qui meuvent le cœur et le tournent vers Dieu, ouvrent les yeux de l'Esprit et donnent à tous la douce joie de consentir et de croire à la vérité. Voilà ce qui nous est promis. Au début, la vérité est obscure et l'adhésion est difficile, mais à nous tous nous est promis la douce promise, la douce joie de consentir et de croire à la vérité. Ça a été repris par Vatican I. Vous voyez, ce qu'il faut pour nous, c'est comprendre que la grâce, la révélation attend de nous une réponse. Cette réponse, c'est la germination de la grâce en nous. Hein ? C'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui nous précède, c'est nous qui faisons, faut dire. Mais nous ne faisons rien sans Dieu. Et nous devons dire en vérité que si nous ne faisons pas, c'est à cause de nous, et si nous faisons, c'est grâce à lui. Hein ? C'est-à-dire, si Dieu s'est révélé, c'est qu'il attend de nous qu'on réponde à sa révélation. Donc la révélation est comme une promesse de la grâce. Ça, c'est sûr. Du fait que le Christ nous est donné, la grâce nous est promise. Cette grâce qui nous précède, qui dispose notre cœur, qui accompagne son mouvement, et qui, d'une certaine manière, grâce à des secours successifs, va nous permettre un jour la douce joie de consentir et de croire à la vérité. Qui fait que ce sera doux. Ça ne sera pas une adhésion obscure, dire « Ah, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu nous demandes de croire ? Que le Seigneur soit caché là, derrière ce morceau de pain. » Mais on voit que la nuit, quoi. On voit que ce qui ne va pas. On voit pas le mystère. Et c'est vrai qu'il faut s'engager. Il y a une adhésion de nous-mêmes. Il y a comme un engagement de nous-mêmes qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout de la foi. Mais on dit, oui, mais enfin, je peux très bien me tromper sur moi-même, n'est-ce pas ? C'est toute la question de la subjectivité. Hein ? Ce qui nous est demandé, c'est une adhésion, mais intelligente, de toute l'intelligence, intelligente, libre, volontaire. Cette adhésion, c'est vrai, au début, elle n'est pas facile. Elle est obscure. Mais il n'en reste pas moins qu'elle est intelligente. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire de la théologie. Parce que les réticences de l'intelligence à croire, hein, toutes les perversions de notre intelligence sont autant de réticences dans la docilité de l'intelligence dans la foi. Et donc, on a besoin de purifier l'intelligence pour qu'elle se laisse aller sous la mouvance de l'esprit de la grâce dans une adhésion pleinement volontaire. Et pour que cette intelligence de la révélation devienne toujours plus profonde, ce même Esprit Saint perfectionne constamment la foi par ses dons, les dons du Saint-Esprit. Donc, il y a deux choses. L'action de l'Esprit est double. Elle est à la naissance, au sens où il nous précède, et elle est la cause de la croissance. C'est lui qui agit, mais c'est nous qui vivons. Hein ? Les images des pères de l'Église, la voile et le vent qui conduit le bateau, c'est bien le bateau qui avance. Hein ? L'Esprit Saint, il nous pousse. Il nous aide à adhérer, mais il faut qu'on ouvre les voiles. Il faut qu'on se mette sous sa mouvance. Et ça, c'est une adhésion de tout notre être. Voilà le sacrifice qui plaît à Dieu. Hein ? Si on veut comprendre quel est le culte chrétien, quel est la vie chrétienne, quel est le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est la foi vive. C'est la foi vivante. C'est cette foi par laquelle nous engageons dans le mystère de la révélation. Nous nous engageons nous-mêmes. Et celui qui croit mais s'engage pas, il ne s'offre pas, la foi chez lui est morte. Il n'y a pas de connaissance qui n'est des conséquences. Vous avez la lumière, dit Saint Jean, marchez dans la lumière. Toi, tu veux me montrer, dit Saint Jacques, ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. Ça veut dire concrètement, une foi qui n'agit pas est morte. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire une foi qui est une pure connaissance, qui ne change rien à ma vie, qui n'implique pas de moi une adhésion plénière, comme une offrande de moi-même, est morte et vaine. Vous voyez, si Dieu me révèle son dessein, mais que ça ne change rien à ma vie, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de réponse, si vous voulez. La réponse est nécessairement une offrande. Il y a un engagement de nous-mêmes, n'est-ce pas? Vous voyez, donc, ceci pour donner l'esprit de tout le reste, c'est que quand on lit la parole de Dieu, une parole qui est écoutée, n'est-ce pas, c'est se faire illusion, dirait Saint Jacques, si elle rentre par une oreille et qu'elle sort de l'autre. C'est se faire illusion. Parce que si la révélation nous est communiquée sans qu'elle touche ma vie, sans rien, ça n'a aucun sens. Elle, toute parole ne revient pas sans avoir porté du fruit. Prophète Isaïe. Impossible. Comme la rosée, elle féconde la terre. Elle lui fait porter un fruit. Donc, c'est toutes les paraboles de Jésus quant à la semence. Toute parole de Dieu, toute révélation de son mystère, doit trouver en nous cette bonne terre où elle germe, hein, c'est-à-dire où elle porte du fruit à 100 pour 1, 30 ou plus. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la révélation, ce n'est pas une action de Dieu qui se fait de loin, et puis, ben, sachez-le, Dieu a ce dessein sur vous, sachez-le. C'est cette révélation, comme elle est accompagnée par la grâce de l'Esprit-Saint, elle exige de tous ceux qui l'accueillent une réponse que l'Esprit suscite, et si cette réponse n'est pas donnée, c'est qu'il y a une résistance. C'est qu'il y a une résistance. Alors faisons attention, c'est pas parce que vous prêchez la parole de Dieu et que tout le monde ne dit pas « Amen, vous avez raison, c'est juste que, », qu'il y a une résistance. Parce que vous n'avez peut-être pas été très intelligent, non ? Il ne faut pas chatouiller le péché de son frère. Chacun est orgueilleux, chacun de nous, on le sait bien, si on nous fourre la vérité comme ça dans le nez, ça je peux pas. Mais petit à petit, il a mis un bout de temps hein, pour se révéler. Petit à petit, on se laisse convertir. Mais voyez, les paroles de Jésus, si vous n'êtes pas accueillis, effacez hein, la foutière de vos pieds et allez-vous-en. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous allez faire ça? N'est-ce pas? Parce que moi, je l'ai entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... ça veut dire... Attention, il y a un appel. Il y a un appel. Vous devez répondre. Il y a une réponse. Mais chacun donne la réponse comme il peut. Mais elle ne sera peut-être pas celle que vous attendez. Laissez-le, laissez-la germer, cette réponse. Bon, mais c'est surtout pour nous qui est en question ici, n'est-ce pas? C'est concrètement de comprendre que toute communion au dessein de Dieu, et quand on regarde la place du mystère de l'oraison dans notre vie, si l'oraison c'est l'accueil du secret du dessein de Dieu. C'est l'âme qui se met à l'écoute de l'amour de Dieu pour elle et pour ses frères, qui rentre dans ce dessein de Dieu et y communie. Alors, l'oraison portera ses fruits. Ça portera des fruits parce que l'adhésion de foi va suivre nécessairement, n'est-ce pas ? L'intelligence va s'assouplir et il y aura des tas de vérités qui seront pour nous obscures. Prenons celle qui est très attentive aux jeunes voix, n'est-ce pas ? La difficulté que nous avons d'obéir au pape, à l'infaillibilité pontificale. Bon, ça c'est des données de foi qui sont bien difficiles à entendre, mais qui devraient être douces à vivre. Hein? Celui qui n'arrive pas à rentrer dans cette docilité, il doit se dire en toute vérité qu'il n'est pas rentré dans le dessein de salut de Dieu sur lui. Je m'appuie hein, sur ce que dit le Concile, il ne se gêne pas, mais il faut arriver à comprendre, je suis appelé à rentrer dans la douce joie de consentir et de croire à la vérité. Et on lit en ce moment au réfectoire les réticences de Luther, hein, particulièrement à l'égard du sacerdoce ministériel, mais ou à l'égard de la vie consacrée. Bon. Mais et tous on est tentés comme ça. Vous savez, c'est un langage, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais qui est facile à entendre, n'est-ce pas ? C'est bon, c'est pour ça que c'est bon de l'entendre. On est tous tentés comme ça. Parce que finalement, on est tous extrêmement loin de la communion des saints de Dieu. Vous voyez, d'une certaine manière, quand il n'y a pas l'adéquation entre le magistère, on va y venir, si on a un peu le temps, et moi, c'est qu'en fait, il n'y a pas communion plénière au Christ. Il n'y a pas communion plénière au Christ. Il y a quelque chose de notre communion qui est entravé. C'est comme avec votre ami, vous l'aimez beaucoup, mais enfin, il y a ceci, il y a cela, et puis il y a encore ça, et puis il y a aussi ça, quoi. Ça. Eh bien, c'est pas le grand amour. Ce que je crois, c'est qu'il y a une adhésion plénière qui renouvelle tout. Si c'est Dieu qui révèle. Alors le numéro 6, lui, est une reprise, c'est comme, si vous voulez, une assertion, comme une espèce d'appendice à ce chapitre. Comme quelque chose qui va justifier, il est important de le mettre, mais c'est secondaire. En fait, c'est la nécessité de la révélation qui est en question là. Pourquoi est-ce que Dieu s'est révélé? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il se révèle? Par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester, se communiquer lui-même, ainsi que les décrets éternels de sa volonté concernant le salut des hommes, c'est-à-dire pour faire participer au bien divin qui surpasse absolument ce que l'esprit humain peut concevoir. Donc, la révélation, le pourquoi de la révélation, c'est que les hommes communient, participent à ces biens divins qui dépassent son entendement. Pas simplement des connaissances que son intelligence n'arrive pas à comprendre. Ça me fait une belle jambe de connaître des choses qui ne me servent à rien. Non, c'est pour participer à des biens divins qui dépassent pleinement mon esprit, ce que je peux concevoir, pas simplement avec mon intelligence. Le Saint Concile confesse que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. C'est vrai que Dieu n'avait pas besoin, si vous voulez, d'une certaine manière, on pourrait dire, il peut aujourd'hui être découvert par une intelligence intelligente. Il peut. On peut le connaître. Le Concile le rappelle, Vatican II le rappelle, après Vatican I. Par la lumière naturelle de la raison humaine. C'est-à-dire, comme si l'intelligence, avec ses forces vives, peut connaître avec certitude Dieu comme principe et fin de toute chose. Alors allez-y, bon courage. Mais c'est la noblesse de l'intelligence. Et d'après mon schéma de ce matin, c'est l'exigence de l'esprit humain chrétien d'aller jusqu'au bout des capacités de l'intelligence. Mais il enseigne qu'on doit attribuer à sa révélation que tous puissent connaître facilement, avec une ferme certitude et sans aucun mélange d'erreurs, ce qui, dans les choses divines, n'est pas de soi inaccessible à la raison humaine. Certes, la raison humaine peut y accéder, mais c'est difficile. En plus, peut s'y greffer des erreurs. Mais le Concile dit que grâce à la révélation, tous les hommes, tous, peuvent connaître dans la condition présente du genre humain. N'allez pas chercher la situation idéale du XIIIe siècle. Dans la situation présente du genre humain, connaître facilement, avec ferme certitude et sans aucun mélange d'erreurs, ce qui, dans les choses divines, n'est pas de soi inaccessible à la raison humaine. Voilà l'œuvre de la révélation. C'est un surcroît de sa miséricorde. Il aurait pu nous laisser à nos forces vacillantes, laissant à quelques sages, Aristote, Saint Thomas et quelques-uns parmi vous, de témoigner, mais ça ne serait pas sans mélange d'erreurs. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que grâce à la révélation chrétienne, l'intelligence naturelle peut aller jusqu'où elle doit aller, sans erreur. Vous voyez, je dis, grâce à la foi qui nous dit où est la vérité, eh bien, l'intelligence peut aller jusqu'où elle doit aller, sans erreur. Et la foi doit corriger aussi, quelquefois, corriger l'intelligence. Et on ne peut pas faire abstraction, nous qui faisons de la philosophie, de nos données de foi. On ne se rend pas compte de ce que nous apporte la foi, comme nous éveillant à la vérité. Là, on peut dire, oui, c'est bien la force vive de l'intelligence, ouais, c'est la force vive de l'intelligence, mais elle a été rudement soutenue dans l'adhésion de foi. Et c'est pour ça que on ne peut pas télescoper l'apport de la foi chrétienne dans l'effort de l'intelligence moderne. C'est pour ça que l'athéisme... L'intelligence européenne de l'Europe, elle a été extrêmement mûrie par la foi. Et donc, elle était comme dans une exigence particulière d'aller jusqu'au bout de la vérité. Et c'est justement l'erreur, là, qui l'a fait aller jusqu'au blasphème. Parce que tellement elle a été mûrie, quoi. L'erreur est beaucoup plus grave. L'erreur n'est pas si grave dans, dans les autres sculptures. Elle ne va pas aussi loin. J'ai quoi encore ? Ouais. Alors, continuons. Juste, vous voyez, je vous schématise un petit peu la suite qui aurait été très importante. C'est cette transmission de la révélation, comment se transmet-elle ? Elle se transmet, c'est Jésus qui a confié à ses apôtres et par les apôtres à ses disciples la transmission de la révélation. Alors, c'est ça qui est important à souligner, et je le lis rapidement, comme ça au moins. Cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu'elle demeurât toujours en son intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les générations. C'est pourquoi le Christ Seigneur, en qui s'achève toute révélation du Dieu Très-Haut, vous voyez, on reprend le Christ comme achèvement de la révélation, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'évangile, d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale en leur communiquant les dons divins. Il n'y a qu'une source, c'est l'évangile. C'est pas la parole de Dieu ou la tradition. Parce que Luther dit, il n'y a qu'une source, sola scriptura, l'écriture. Il n'y a qu'une seule source, c'est l'évangile proclamé par Jésus et en Jésus. C'est ce que Jésus a proclamé, c'est surtout ce qu'il est. Si c'était seulement ce qu'il avait dit, ça serait très embêtant. C'est surtout ce qu'il est. Ce qu'il a dit, c'est pour nous aider à comprendre ce qu'il est. L'évangile, c'est Jésus, le mystère du Christ. Saint Paul parlera du mystère du Christ. Voilà l'évangile. Ce qui fut fidèlement accompli tantôt par les apôtres, qui dans la prédication orale, dans les exemples et les institutions transmirent, soit ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, soit ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit, tantôt par ses apôtres et par des hommes de leur entourage qui, sous l'inspiration du même esprit, consignèrent par écrit le message du Seigneur. Ce qui compte, c'est le mystère du Christ. Ce mystère du Christ, on y rentre non seulement par les verba, les paroles de Jésus, authentiques, entre guillemets, mais ce mystère de Jésus découvert à la lumière de l'Esprit Saint. Mais pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques auxquels ils remirent leur propre fonction d'enseignement. Cette sainte tradition et la sainte écriture de l'un et l'autre testament sont donc comme un miroir où l'Église, en son cheminement terrestre, contemple Dieu, dont elle reçoit tout jusqu'à ce qu'elle soit amenée à le voir face à face. En gros, voilà, l'Évangile, le mystère du Christ, cet Évangile, il a été confié aux apôtres. Ces apôtres, par leur enseignement et par leur action, leurs institutions, ont communiqué cet évangile. Cet enseignement a quelquefois été écrit. Alors ce sont les évangiles. Et puis, quelquefois non écrit. C'est ce qu'on va appeler la tradition. Il y a l'écriture, ce qui est écrit de leur enseignement, mais il y a ce qui a été communiqué aux apôtres d'abord, et par les apôtres à d'autres, et qui n'a pas nécessairement été écrit. Mais ce n'est pas étonnant, parce que ce qui compte, c'est ça. C'est l'Évangile du Christ. Oui, parce que vous allez dire, comme on disait, mais enfin, les vœux, c'est pas dans l'Évangile. C'est pas dans l'Évangile, c'est clair, c'est pas dans l'Évangile. Mais ça appartient à une tradition. Vous voyez, vous pouvez prendre le sacrement de la confirmation. La descente du Saint-Esprit. Oui, mais en quoi c'est la confirmation? Pas dans l'Évangile. La manière, l'Eucharistie, ça c'est plus difficile. Hein. Mais la pénitence. On trouve bien quelques passages, confessez-vous mutuellement vos péchés. Hein, mais un prêtre, pas dans l'Évangile. Et ça vient d'où, ça? Il y a des écrits, scriptam manam, qui demeurent, mais il y a une tradition qui s'est transmise, et qui certainement, vous voyez, plus elle est proche de la source, plus elle est vivante, plus elle est vive, plus elle est source, et plus on s'en s'éloigne, plus elle doit être sans cesse mesurée à la lumière de l'Esprit Saint. Hein. Mais, vous voyez, il faut absolument comprendre l'Évangile. Donc, les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament et la tradition sont comme les miroirs à travers lesquels, dans l'Esprit Saint, je vais rejoindre Christ et son Évangile. Donc, ça n'est pas l'Évangile, c'est pas les évangiles. L'Évangile, c'est le mystère de Jésus. Ce mystère de Jésus, j'y rentre grâce à ces miroirs, n'est-ce pas ? La sainte tradition et la sainte écriture de l'un et l'autre testament sont donc comme un miroir où l'Église, en son cheminement terrestre, contemple Dieu dont elle reçoit tout jusqu'à ce qu'elle soit amenée à le voir face à face. C'est de Dieu qu'elle reçoit, mais c'est par eux que j'y vais. C'est par l'Évangile, éclairé par la tradition,
que je rejoins Dieu se révélant. Et donc, on revient à cette chose, c'est le mystère de Jésus. L'évangile, l'écriture, elle, et la tradition pour nous, par elle, et la tradition et l'écriture nous aident à rejoindre Jésus. C'est leur fin.
Alors pour travailler sur la foi et l'intelligence, on va en fait continuer à, d'une certaine manière, à commenter Dei Verbum. Donc je vais vous lire les paragraphes 5 et 6 qui en fait sont comme un résumé et une introduction à ce qu'on va faire. Donc c'est toujours dans le chapitre 1, sur ce qu'est la révélation. À Dieu qui révèle, il faut apporter l'obéissance de la foi, par laquelle l'homme s'en remet tout entier, librement à Dieu, en apportant au Dieu révélateur la soumission complète de son intelligence et de sa volonté, et en donnant de toute sa volonté son assentiment à la révélation qu'il a faite. Donc ça, c'est une définition de la foi, d'une certaine manière. Pour apporter cette foi, l'homme a besoin de la grâce de Dieu, qui fait les premières avances et qui l'aide, et du secours intérieur de l'Esprit Saint pour toucher son cœur et le tourner vers Dieu, pour ouvrir les yeux de son âme et donner à tous la joie profonde dans l'acceptation de la vérité et de la foi qu'il lui donne. Mais pour que l'on pénètre toujours plus avant dans la connaissance de la révélation, le même Esprit Saint ne cesse par ses dons de rendre la foi plus parfaite. Donc vous voyez, la foi nous est montrée là comme une réponse à la révélation de Dieu. Et comme une réponse dans l'obéissance. Donc on essaiera de voir d'une obéissance qui engage à la fois l'intelligence et la volonté. Et cette obéissance de l'intelligence et de la volonté, elle se fait grâce à l'Esprit Saint, grâce à l'aide de Dieu. Fait beaucoup. Si vous regardez la structure du texte, hein, donc il était parlé de la révélation. Ensuite, on nous montre la réponse de l'homme à la révélation. Et cette réponse, c'est ce que saint Paul appelle l'obéissance de la foi. Et l'obéissance de la foi, elle regarde l'homme tout entier, mais par son intelligence et sa volonté. D'accord ? Donc le moyen par lequel l'homme va se donner tout entier à Dieu dans l'obéissance de la foi, c'est son intelligence et sa volonté. Hein, c'est ce qui est marqué. En apportant au Dieu révélateur la soumission complète de son intelligence et de sa volonté. Et en donnant de toute sa volonté son assentiment à la révélation qu'il a faite. Et ensuite, cette soumission de l'intelligence et de la volonté, cette adhésion et cette soumission de l'intelligence et de la volonté, elle réclame la grâce. D'accord ? C'est-à-dire le secours de l'Esprit Saint. Et cette grâce, elle est donnée non seulement pour adhérer, mais pour grandir dans cette adhésion. D'accord ? Ça, c'est la structure du petit paragraphe. Alors ensuite, il y a le deuxième, le 6, qui est la fin de ce premier chapitre. Par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester lui-même et communiquer les décrets éternels de sa volonté sur le salut des hommes, afin de les faire participer au bien divin qui dépasse absolument ce que l'esprit humain peut en comprendre. Vous voyez, même chose, il y a la structure de ce que c'est que la révélation. La révélation implique une révélation de Dieu sur lui-même et sur le regard de Dieu, sur la volonté de Dieu et sa sagesse. La volonté divine et sa sagesse par rapport à la création, et particulièrement par rapport à l'homme. Et la finalité de cette révélation, donc la finalité de la réponse, la finalité de la révélation et de la réponse à la révélation, c'est de participer au bien divin. Donc c'est la béatitude. Oui, ça c'est l'avantage du concile, c'est que si vous avez de la théologie en condensé. C'est pour ça que c'est complètement indigeste la première lecture. On va voir hein, que pour expliciter tout ça, il faudrait presque relire toute la somme de saint Thomas. Le saint concile proclame que Dieu, principe et fin de tout, peut être connu de façon certaine à partir des choses créées par la lumière naturelle de la raison humaine. Donc vous voyez, on précise que même s'il va y avoir une révélation de Dieu quant à ce qu'il est, quant à sa volonté, quant à sa sagesse, qui est une révélation surnaturelle, donc une révélation divine, il y a d'une certaine manière une révélation naturelle, c'est-à-dire que je peux découvrir quelque chose de Dieu à travers la réalité créée. Donc vous voyez, parallèlement à cette révélation, il y a quelque chose de Dieu lui-même et de sa volonté et de sa sagesse qui me sont révélés non pas de manière divine mais à travers la création, donc d'une manière naturelle, et que l'intelligence peut découvrir. Et puis le concile finit. C'est à sa révélation, enseigne le Concile, qu'on doit que ce qui, dans les choses divines, n'est pas par lui-même inaccessible à la raison humaine. Ça veut dire ce qui est accessible à la raison humaine. Hein, parce que ce qui n'est pas par lui-même inaccessible, c'est ce qui est accessible. Donc, ce qui, dans les choses divines, n'est pas par lui-même inaccessible à la raison humaine, puisse aussi, dans l'état présent du genre humain, être connu par tous facilement, avec une certitude inébranlable, sans aucun mélange d'erreur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la révélation divine me révèle aussi ce que je peux découvrir par moi-même. C'est ce qu'on appelle, on le verra, les préambula fidei. C'est évident que si vous adhérez au mystère du Christ, vous adhérez à l'existence de Dieu. Si dans la foi, vous vivez de la certitude que le Christ est Dieu, ça implique nécessairement que vous vivez de la certitude que Dieu existe. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont... ou que l'homme existe... Vous voyez, c'est une chose toute stupide, enfin qui est bête. Mais ce que c'est que la personne humaine, ce que c'est que l'homme, en adhérant au Christ, j'y adhère. Si je crois que le Christ est homme, La foi me fait adhérer à quantité de choses sur le Christ qui n'ont rien de spécifiquement divin. Et donc ma connaissance de foi, on va le voir, la révélation et la foi, Dieu m'éclaire même sur des choses que je pourrais connaître par moi-même. Donc si vous voulez, il y a des choses qui sont à la limite entre les deux. Il y a des choses que je peux connaître par moi-même et pour lesquelles je n'ai absolument pas besoin de l'aide de Dieu. D'accord ? Pour savoir que ça c'est une table et que ça c'est un tableau, je n'ai pas besoin de l'aide de Dieu. Et même si je suis un pécheur et je suis coupé de la grâce, si je n'ai pas trop fait de philosophie, ça ne pose pas de problème. Ensuite, il y a les mystères qui sont complètement inaccessibles à l'intelligence humaine. Le mystère de la Trinité, par exemple. Pour lesquels je ne peux rien découvrir sans l'aide de Dieu. Il faudra préciser, c'est de préciser ce qu'on en découvre, précisément, avec l'aide de Dieu. Mais que je ne peux rien découvrir sans l'aide de Dieu. Et puis, il y a un certain nombre de choses intermédiaires que je peux très difficilement découvrir par mon intelligence et que Dieu... Et que je découvre avec de manière immédiate avec l'aide de Dieu. Par exemple, l'existence de Dieu. Par exemple, l'immortalité de l'âme. Vous voyez, ce sont deux vérités. Ces deux aspects, enfin, plus exactement, c'est... Ces deux réalités, hein, l'âme immortelle et Dieu, sont deux réalités que je ne peux découvrir, que je peux découvrir par mon intelligence, mais avec difficulté et avec fragilité. Alors que la foi, Dieu, par le don de la foi, me donne d'y croire de manière immédiate. Alors ça, c'est le texte du Concile. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler pour que ça soit plus clair. Parce que c'est le propre du Concile, c'est qu'il me donne un texte qui présuppose toute la tradition, qui présuppose toute la recherche théologique, et donc qui n'est pas du tout pédagogique. C'est un peu un terme, si vous voulez, c'est un résumé, le Concile. C'est pas du tout une introduction à la théologie. Alors, ce qu'on va essayer précisément de préciser, c'est... Qu'est-ce que c'est que la foi par rapport à l'intelligence? Quelle est l'autonomie de la foi par rapport à l'intelligence? D'abord, est-ce que la foi a un quelconque rapport avec l'intelligence? Pourquoi est-ce qu'on utilise le mot de foi? Parce qu'avoir foi en ce que quelqu'un me dit, est-ce qu'il y a un rapport entre le mot foi utilisé par les chrétiens et utilisé de manière courante? Quand on dit qu'on croit à quelque chose, on ne croit pas nécessairement à quelque chose de religieux. Alors, est-ce que le mot est ambigu ou est-ce qu'il a la même signification? Et puis, plus profondément, ce qui est l'importance de cette question, c'est de découvrir qu'est-ce que c'est qu'un acte de foi? Oui, en nous, où se situe l'acte de foi? Est-ce que c'est quelque chose de pratique? Est-ce que c'est quelque chose de théorique? Est-ce que c'est quelque chose que... On ne vit que dans l'oraison. Est-ce que c'est quelque chose, vous voyez, qu'est-ce que c'est que l'acte de foi? On sait la formule, à la limite, vous voyez, mais qu'est-ce que c'est censé, des formules, on peut en répéter. Vous voyez, mais qu'est-ce que c'est censé engager de moi-même? Parce que le but de la formule, c'est pas la formule, vous voyez, c'est pas un sacrement, c'est-à-dire que c'est pas ex opere operato. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez dit la formule que l'effet est produit. Vous voyez, c'est le problème de l'acte de foi, c'est qu'il ne suffit pas de le répéter. Il faut essayer de vivre ce qu'on dit. Et pour ça, il faut savoir qu'est-ce qui en moi est engagé par ce que je dis. Vous voyez, quand on parle spontanément de ce qu'on fait, on en parle parce qu'on en vit. Le problème de l'acte de foi, c'est que des fois on peut le répéter sans avoir vu ce que ça réclame de manière vitale de nous. Alors ça, c'est le premier problème, c'est de savoir quel est l'enracinement de l'acte de foi en nous. Ensuite, la deuxième question, est-ce que la foi est une connaissance? Et quel est le rapport qu'il y a entre la connaissance de foi et les autres connaissances? Vous voyez, on a beaucoup de registres de connaissances. on a beaucoup de types de connaissances qui sont très différents. À quel type de connaissance correspond la foi? Est-ce que c'est une connaissance scientifique? Est-ce que c'est une connaissance affective? Est-ce que c'est une connaissance symbolique? Ou est-ce que c'est pas une connaissance du tout? Est-ce que c'est simplement une question d'engagement pratique? Et puis la dernière chose qui dépend aussi de cette même question sur l'intelligence et la foi, c'est le problème de la théologie et de la catéchèse par rapport à la vie chrétienne. Est-ce que c'est enseignable la foi? Est-ce qu'on perd pas son temps quand on essaye de faire de la catéchèse? C'est une question qu'il faut se poser avant d'en faire. Et est-ce qu'on perd pas son temps quand on fait de la théologie? Vous voyez, autrement dit, est-ce que la théologie, par exemple, ça n'est fait que pour répondre à des problèmes que les intellectuels se posent, mais que concrètement au niveau de la vie chrétienne, ça n'a aucun intérêt? Il suffit de vivre sa foi de manière toute simple et sans réfléchir. Ou bien, est-ce que ça a un lien avec la vie chrétienne? Quand vous ouvrez aujourd'hui un manuel de théologie, enfin, ou un livre de théologie contemporaine, c'est pas évident que ça soit lié immédiatement à notre vie concrète. Pas toujours évident. Alors la catéchèse, c'est le même problème. Est-ce que ça s'enseigne la foi? Est-ce que ça se communique par enseignement? Est-ce que ça se communique par témoignage? Est-ce qu'il faut remplacer la catéchèse par le témoignage? Enfin, vous voyez, c'est tous ces problèmes-là. Et tous ces problèmes-là, ils sont liés au problème qu'il y a entre ce que je suis et ma foi. Entre mon intelligence, l'acte de foi et ma vie chrétienne. Alors la première chose, à mon avis, qu'il faut faire, c'est d'abord d'identifier ce que c'est que l'intelligence. Puisque le concile nous parle de l'intelligence, donc on essaie de comprendre ce que nous dit le concile. Et il nous dit que l'obéissance de la foi, c'est s'en remettre tout entier librement à Dieu, en apportant à Dieu, qui se révèle, la soumission complète de son intelligence et de sa volonté. Donc la première question est de savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence et la volonté. Puisque précisément, c'est là qu'il y a un engagement de ma part. Qu'est-ce que j'engage de moi dans la foi? Ben, l'Église, le Concile me dit, et toute la tradition me dit, c'est mon intelligence que j'engage dans la foi. Et aussi ma volonté. Et donc il faut que je sache ce que c'est que mon intelligence. Sinon, j'engage rien du tout. Alors, c'est pas facile, pourquoi? Parce que mon intelligence, j'en ai pas d'expérience directe. L'intelligence, elle est présente dans beaucoup de choses en moi, mais elle est rarement présente de manière directe. Vous voyez, l'intelligence, elle est présente où? Elle est présente dans le raisonnement. Elle est présente dans ce qu'on appelle la pensée, quand quelqu'un dit qu'il pense, c'est-à-dire qu'il réfléchit. Elle est présente dans la réflexion scientifique aussi, l'intelligence. Elle est présente chez l'artiste aussi. Dans l'inspiration artistique, elle est présente. Mais elle est présente aussi dans l'intuition affective. Dans le travail, elle est présente. Vous voyez, ça, plus exactement, la première chose que souvent on découvre, c'est qu'elle n'est pas absente. Mais on a du mal à voir, vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette chose qui est présente partout? Vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette capacité qui est présente à travers toutes ces activités et qui est plus radicale que toutes ces activités? Alors, selon les tempéraments, nous, on met plutôt l'intelligence du côté du raisonnement, du côté de l'intelligence du cœur, ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, l'intuition affective. On la met plus du côté scientifique, on la met plus du côté des, vous voyez, ou du côté des intellectuels qui pensent beaucoup et qui ne font pas grand-chose. Vous voyez, on a une idée de l'intelligence. La question est de savoir... Précisément, les idées, c'est le fruit de l'intelligence. Mais qu'est-ce que c'est en nous que cette capacité vitale qu'est l'intelligence? Alors en plus, vous avez les scientifiques aujourd'hui qui vous disent, enfin certains scientifiques qui vont vous dire que c'est une fonction hormonale, l'intelligence. C'est un produit du fonctionnement chimique et du cerveau. Alors la question fondamentale, c'est de savoir d'abord est-ce que c'est abstrait l'intelligence. Et spontanément, pour nous, l'intelligence, c'est quelque chose d'abstrait. Alors que si ça fait partie de ce que je ne suis pas abstrait. Mes idées, elles sont abstraites, mais nous, on n'est pas abstrait normalement. Et là, au moins une mère de famille, quand elle engage son intelligence affective, elle voit bien que ce n'est pas abstrait. C'est même très concret, parce que ça a des conséquences graves. Si on n'est pas intelligent dans l'éducation des enfants, il y a plein de bêtises. Alors, vous voyez, l'important, c'est de voir que l'intelligence, c'est à la fois cette capacité qui va impliquer la capacité d'abstraire, mais qui est beaucoup plus fondamentalement une capacité d'adhésion au réel, une capacité de recevoir le réel. Et plus précisément, il y a une double dimension dans l'intelligence. C'est à la fois de faire mien la réalité, de l'assimiler. Quand je dis que j'ai compris, c'est mon intelligence qui a compris. C'est-à-dire que j'ai fait mien la réalité. Il y a quelque chose de la réalité qui est passé en moi. Et en même temps, c'est une capacité de communier à la réalité. L'intelligence, elle implique à la fois une appréhension et un toucher, un jugement de la réalité. Et c'est pas du tout, vous voyez, elle est pas simple. Et plus l'intelligence est vivante et plus elle respecte ce double mouvement, vous voyez, à la fois ce mouvement par lequel je connais et ce mouvement par lequel je rejoins la réalité. La connaissance, ça se passe pas qu'en moi. La connaissance, ça se passe parce que je suis en contact avec la réalité. Mon intelligence, elle est en contact avec la réalité. Et à la fois, elle est dans un contact qui fait que je comprends quelque chose. C'est important à cette distinction, parce qu'on verra que dans la foi, j'atteins quelque chose, mais j'assimile plus rien du tout. Je ne comprends rien. Je touche quelque chose, mais je ne comprends rien. Vous voyez, au sens comprendre, ça veut dire comprenere, prendre avec moi. Ben, le mystère de la Trinité, vous ne pouvez pas le prendre avec vous. Votre intelligence ne peut pas le cerner, mais elle peut le rejoindre, l'atteindre. Alors, on met du temps avant de distinguer ce double aspect. C'est très simple, hein. La connaissance, ça enrichit. Ça, c'est ce que je fais mien, vous voyez, j'emmagasine. Je suis diplômé, S-lettres, S-philosophie, S-sciences, enfin tout ce que vous voudrez. Vous voyez, quand on a des diplômes, normalement, on a l'intelligence qui est bien remplie. Ce qu'on dit. Et donc, ça prouve bien qu'on a emmagasiné quelque chose, qu'il y a une certaine richesse intellectuelle. Et donc l'intelligence a cette capacité d'assimiler. Mais l'intelligence, elle a aussi la capacité d'admirer, vous voyez, de contempler, de sortir d'elle-même, de rejoindre la réalité. Et normalement, tout ce que j'ai assimilé, tout ce que j'ai compris, est fait pour me conduire à la réalité. Le but de la richesse, c'est pas de s'installer dedans. C'est fait pour servir la richesse, c'est bien connu. Pour servir à l'homme. Mais le danger de la richesse, c'est de s'installer dedans et de la chercher comme finalité. Ben, il y a exactement le même problème du côté de l'intelligence. Quand on commence à découvrir ce que c'est comme richesse que la connaissance, le risque, c'est de s'y installer. Alors ça, les intellectuels, c'est ça. C'est les gens qui sont installés dans la connaissance. Alors que celui qui est intelligent, c'est celui qui se sert de la richesse de la connaissance, donc de ce qu'il a assimilé, pour rejoindre la réalité, pour être plus dans le réel. Alors si vous reprenez dans cette lumière-là toutes les différentes activités de l'intelligence, vous voyez que l'un ou l'autre aspect est plus présent. Quand vous raisonnez, vous raisonnez dans votre tête normalement. D'accord ? Quand on réfléchit, quand on fait un projet, on réfléchit plus dans sa tête. Par contre, quand on est en train d'exécuter quelque chose, vous êtes en train de réparer un pneu, vous raisonnez aussi. Mais il vaut mieux que vous ne raisonniez pas trop dans la tête. Donc il y a un raisonnement pratique, vous voyez, qui du coup est plus du côté de la réalité. Et présentement, le raisonnement abstrait, donc celui qui se fait plus en soi-même, s'il est bien huilé, me permet ensuite du côté pratique d'être beaucoup plus efficace. Quand vous avez réfléchi sur le fonctionnement du moteur, il y a des chances que vous trouviez plus vite la panne. Et puis, par exemple, la connaissance affective, elle est beaucoup plus proche de la réalité. Vous voyez, l'intelligence instinctive d'une mère par rapport à son enfant. Vous voyez, qui devine. Ben, deviner, c'est l'intelligence qui devine. C'est lié à l'imagination, à la sensation, mais c'est l'intelligence qui est capable d'anticiper. Vous voyez, dans l'ordre de l'amour d'amitié, d'être capable d'anticiper ce qui fera plaisir à l'autre, ce qui va l'aider, ce qui sera son bien. C'est toujours l'intelligence, mais à ce moment-là, c'est l'intelligence, vous voyez, dont on parlera d'intelligence intuitive. Mais c'est important de voir que, encore une fois, l'intelligence comme telle, elle est plus profonde que ça, et elle réclame surtout, et ça c'est très important, elle réclame de s'exercer en dehors de tout ça. Je ne peux pas me contenter d'exercer mon intelligence à travers le travail, à travers l'art, à travers l'affectivité, à travers le raisonnement, à travers la science, à travers les maths. Vous voyez, j'ai besoin de respirer autrement qu'à travers autre chose. Mon intelligence, elle est faite pour rejoindre le réel tout court. Vous voyez, elle est ce par quoi je suis dans le réel. Enfin, je suis présent au réel. Parce que même si je suis dans la lune, je suis toujours là, au moins physiquement. Mais ce par quoi, vous voyez, je suis présent à la réalité telle qu'elle est dans l'instant présent, c'est mon intelligence. Et en ça, elle se distingue de la volonté. Donc vous voyez, l'intelligence, c'est la capacité de recevoir la réalité telle qu'elle est. Alors que la volonté, c'est la capacité de tendre vers l'autre. C'est important aussi parce que quand on dit qu'on aime, même si on ne le sait pas, c'est notre volonté qui est engagée quand on aime. Quand on aime Dieu, quand on aime nos frères aussi. Et c'est pour ça que, on va le voir, dans la foi, les deux sont engagés. À la fois ma capacité d'aimer et ma capacité de connaître. Alors le problème qui se pose est de savoir, puisque le texte du Concile nous dit qu'il faut soumettre son intelligence à Dieu. La question ensuite est de savoir quel est le lien de cette intelligence avec Dieu. Vous voyez, une fois que j'ai identifié en moi l'intelligence, enfin j'ai toute ma vie pour découvrir ce qu'elle est, mais que j'ai vu en moi qu'il y avait une capacité de connaissance, de découvrir la vérité, c'est-à-dire de découvrir la réalité comme elle est. Ensuite, la question est de savoir quelle est la situation de l'intelligence par rapport à Dieu. Alors je crois que ça peut aider, vous voyez, de voir quels sont les différents cas de figure. Parce que vous avez, même dans la, enfin, dans la théologie, enfin pas dans toute la théologie, mais enfin vous avez différentes opinions. Ou bien l'intelligence, il y a une rupture totale. C'est-à-dire que je ne sais rien, absolument rien de Dieu. Je ne peux rien, vous voyez, ça n'éveille rien du tout en moi, point de vue de l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et à ce moment-là, il y a deux manières. Ou bien, je ne connais rien, et même dans la foi, je ne connais rien. Vous voyez, c'est l'inconnaissance absolue. Alors à ce moment-là, c'est très simple. Je peux rien dire, je peux rien faire, parce que je ne sais rien. Ou bien, Je connais quelque chose, mais c'est absolument incommunicable. Vous voyez, donc il y a quand même, je vis quand même de quelque chose, mais je peux, c'est absolument incommunicable. Ça n'a, il y a pas, il y a aucune continuité entre mon intelligence humaine et ce que je vis. Effectivement, à ce moment-là, l'écriture, ça sert à rien. Et parler, enfin, tous les, vous voyez, toute l'Église ne sert à rien du tout. Si ce que je vis dans la foi est absolument incommunicable. Ça sert à rien même de parler de Dieu. Ni même d'y penser. Alors, il y a l'excès inverse, qui est de considérer que Dieu, c'est évident. C'est-à-dire de croire qu'on a une connaissance conceptuelle de Dieu. Vous voyez, on a une idée de Dieu. Alors, elle est innée chez les uns, d'autres pas, ça dépend. Vous voyez, on a une idée de Dieu et on réfléchit sur l'idée qu'on a de Dieu. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de problème parce que les idées, on les a sous la main quand on veut. C'est vrai. Quand on a les idées bien faites, on peut les sortir de son intelligence quand on veut. Donc, on réfléchit sur Dieu sans problème quand on veut. On médite sur Dieu sans problème. À ce moment-là, j'ai une connaissance qui est conceptuelle. J'ai l'idée de Dieu. Et vous avez toute une tradition philosophique, vous voyez, qui est dans cette ligne-là. Ça peut être une tentation, quand on fait beaucoup de théologie, de finir par croire qu'on a l'idée de Dieu et qu'on réfléchit sur Dieu comme ça, sans problème, quoi, comme on réfléchit sur un problème de mathématiques. Vous verrez pourquoi c'est important, parce que, vous voyez, quand on est dans une phase de l'histoire de l'Église où on a trop tendance à spéculer sur Dieu, la réaction inverse, c'est de dire, mais au fond, vous spéculez, ça ne veut rien dire du tout, donc... En fait, vous spéculez sur du vide. Et de dire, ben voilà, de toute façon, vous ne savez rien du tout. Ou bien vous savez presque rien. Ou bien il y a un lien entre Dieu et l'intelligence qui est une connaissance symbolique. C'est-à-dire que vous connaissez quelque chose de Dieu, mais c'est symbolique. D'ailleurs, c'est ce que dit l'Écriture. Que Dieu a le bras long, vous voyez, qui va sauver le peuple d'Égypte à bras forts et à main étendue, qu'il est assis sur son trône, que Jésus est le lion de la tribu de Juda, enfin, vous avez tout un nombre de métaphores. Et au fond, toute l'écriture et toute la connaissance que je peux avoir de Dieu, elle n'est qu'à travers une image. C'est comme c'est les icônes, si vous voulez. Je n'ai que des icônes. Et l'icône, elle est symbolique. Donc au fond, je ne sais rien de Dieu, mais j'en atteins quelque chose à travers une image. Et aujourd'hui, vous avez un courant très fort dans ce sens-là. Et dans la pensée orthodoxe, dans certains courants de la pensée orthodoxe, il y a quelque chose comme ça. C'est qu'au fond, qui s'appuie à ce moment-là sur le texte de saint Paul, vous savez, où il est dit « Jusqu'alors, nous ne connaissons qu'en énigme, et comme dans un miroir, mais nous le verrons face à face. » Et donc, je ne connais que de manière, pas simplement de manière floue, vous voyez, mais de manière indirecte, quoi. Ou bien, c'est la position de l'Église, j'ai une connaissance analogique. Ça, c'est une connaissance logique, la connaissance conceptuelle. C'est que vous pouvez réfléchir sur Dieu et construire un système logique à partir de Dieu. Ou bien j'ai une connaissance analogique. Alors qu'est-ce que ça veut dire analogique? Ça veut dire que ce n'est pas une connaissance directe conceptuelle, je n'ai pas l'expérience de Dieu. C'est une connaissance indirecte, mais une connaissance qui est une connaissance où mon intelligence atteint quelque chose de vrai. Ce n'est pas flou, ce n'est pas à travers une image. Et que quand Jésus parle du Père, ce n'est pas une image, Père. Il y a une image en moi. Quand Jésus dit, quand il parle du Père, moi j'ai une image du Père, en fonction de mon Père ou en fonction de plein d'autres choses. Mais au-delà de cette image, la signification et ce qui m'est dit me permet d'atteindre vraiment la réalité. Et c'est très important parce que si mon intelligence ne peut rien découvrir, voyez, n'a pas de voie d'accès à Dieu, ou elle a que des voies d'accès artistiques et symboliques. Si mon intelligence n'a pas de voie d'accès à Dieu, tout ce que je dis est très 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 dangereux. Parce que le symbole, les symboles qui sont révélés, ça va, je sais qu'ils sont révélés, mais moi je ne peux plus rien dire, parce que dès que je vais me servir d'une image, je ne sais pas si elle est juste ou si elle est fausse. Parce que mon inspiration à moi et ma symbolique à moi, ce n'est pas celle de Dieu. Oui, et le symbolisme, il est variable d'un pays à l'autre, d'une civilisation à l'autre et d'un individu à l'autre. Alors que si j'ai une certaine connaissance, si mon intelligence est faite pour une certaine connaissance de Dieu, et si mon intelligence a une certaine voie d'accès à Dieu, parce que mon intelligence, elle n'est pas variable d'un pays à l'autre, vous voyez, parce que le réel, il est le réel, et un arbre, c'est un arbre, même s'il est grand, petit, large ou maigre, et qu'il est maléfique ou bénéfique, vous voyez, si mon intelligence a une voie d'accès à Dieu, alors je peux dire quelque chose. C'est toujours très dangereux, hein. Ça, c'est clair, il faut le savoir. C'est de toute façon dangereux, parce que comme on a beaucoup de mal à vivre dans le réel, vous voyez, de la foi ou de la réalité en permanence, rapidement, quand on est fatigué, on passe aux métaphores. Vous voyez, on se sert d'images pour boucher les trous. Ce qu'on voit quand on fait en affaire le catéchisme. Quand les enfants commencent à vous poser les questions qui sont vraiment les questions intelligentes et que soi-même, on n'a pas réfléchi, bon, on trouve des métaphores, des idées, enfin, vous voyez, on distrait, on raconte des petites histoires, enfin, on édifie, on raconte des histoires de saints, enfin, on trouve plein d'exemples, mais on évite la question. C'est pas grave, parce qu'il faut pas, scandaliser les enfants, mais c'est important de voir qu'en fait, on a vraiment évité la question. Et que ce qu'on a commencé à dire, c'est parce que, vous voyez, on n'a pas pu dire autre chose. Et c'est vrai que c'est important de voir, vous voyez, je crois que là-dessus, il y a beaucoup de gens qui sont agnostiques, c'est-à-dire qui se posent la question de Dieu, qui sont très exigeants vis-à-vis de ça. Et je crois qu'il faut accepter leur exigence, qui est de dire, vous n'avez pas le droit de parler de Dieu de manière fausse. Si vous avez la foi, vous qui êtes chrétien, vous n'avez pas le droit de parler de Dieu de manière fausse. Sinon, taisez-vous. Parce que c'est trop important, vous voyez, comme eux, effectivement, je dirais, ils n'ont pas vécu dans un milieu chrétien, c'est vrai que pour eux, c'est vraiment important. Et je dirais, c'est important de l'accepter, cette exigence. Effectivement, il y a des fois où il vaut mieux se taire, même vis-à-vis des enfants. Et dire que, ben, on va prier, vous voyez, et puis on verra. Parce que sinon, c'est plus grave de nourrir de travers un enfant que de se taire. Un silence est moins blessant qu'une fausse réponse. Parce que dans le silence, il y a une pierre d'attente. Alors que s'il y a une fausse réponse, et qu'après ça on s'en aperçoit, vous voyez, c'est fini. Il y a des rancunes qui sont difficilement réparables après. Alors l'Église, hein, vous voyez, et c'était ce texte-là, hein, donc du deuxième paragraphe, ce qui dans les choses divines n'est pas par lui-même. Attends, non, c'est avant. Dieu, principe et fin de tout, peut être connu de façon certaine à partir des choses créées par la lumière naturelle de la raison humaine. Alors, si le Concile et l'Église parlent toujours de raison humaine, c'est simplement parce que c'est l'intelligence, mais c'est l'intelligence, si vous voulez, d'une manière vivante, vous voyez, c'est pas l'intelligence tout court. Il suffit pas de se mettre devant sa table pour avoir l'évidence que Dieu existe. Vous voyez, je dirais, il faut une recherche de l'intelligence. C'est pour ça que, vous voyez, la recherche qui implique un certain raisonnement. Mais le raisonnement, plus l'intelligence est vivante et moins il est lourd, le raisonnement. Encore une fois, une mère, quand elle s'occupe de son enfant, elle n'arrête pas de raisonner. Mais c'est un raisonnement qui est vital, qui est vivant. C'est comme de marcher. Et celui qui réfléchit trop ou met les pieds, vous voyez, il ne sait plus marcher. Ben, quand on raisonne trop et quand le raisonnement il n'est pas assez quelque chose de vivant, c'est-à-dire la démarche de l'intelligence vivante, à ce moment-là, on s'enfonce dans le raisonnement. Et on s'attache plus au raisonnement qu'à ce à quoi il conduit. Si vous commencez à réfléchir trop sur la manière dont vous marchez, vous verrez, vous n'arrivez plus à mettre un pied devant l'autre. Mais c'est vrai, parce que c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué, la marche. Si vous analysez la quantité de choses qui sont mises en jeu quand vous marchez. Faites pas trop ça. Vous voyez, c'est Aristote qui étudie ça de près. Toute l'inertie du corps, tout l'équilibre du corps que ça réclame. Comment ça se fait qu'en levant un pied, on ne tombe pas ? C'est vrai, c'est tout bête. On n'est quasiment jamais sur les deux pieds à la fois quand on marche. Non mais c'est important parce que du côté de l'intelligence, c'est ça qu'on fait, vous voyez, c'est que on s'enfonce dans le raisonnement. Quand vous marchez, c'est parce que vous allez, c'est-à-dire, c'est très simple, un enfant, quand il apprend à marcher, c'est bien connu, le seul moyen c'est qu'il ait son père ou sa mère à l'autre bout de la pièce qui lui ouvre les bras. Il réfléchit plus, à ce moment il court tout droit. Alors que s'il essaye de réfléchir, ce qu'il fait d'ailleurs, sur le fonctionnement de la marche, et où est son pied, il n'y arrive pas, au bout de 3 mètres, vous voyez, il est comme Saint-Pierre sur les eaux. Et ben, c'est la même chose du côté de l'intelligence. Si le raisonnement, il s'enfonce dans le raisonnement, il réfléchit trop sur le raisonnement, il cherche la logique du raisonnement, et bien il s'enfonce, et il ne voit plus où est-ce qu'il va. Je dis ça parce que ce qu'on appelle les voies d'accès à l'existence de Dieu, ce n'est pas des preuves au sens d'un raisonnement, vous voyez, qui est construit mathématiquement et qui a une rigueur scientifique au sens des sciences mathématiques. La rigueur de la découverte de l'existence de Dieu, c'est une rigueur, vous voyez, vitale, c'est pas une rigueur mathématique. Mon intelligence, elle n'est pas faite pour découvrir Dieu par le raisonnement. Mais en le découvrant, sa découverte va impliquer un raisonnement, mais qui est complètement dépassé. C'est l'intelligence dans sa, vous voyez, je dirais, dans sa démarche vivante qui découvre Dieu. C'est pas l'intelligence dans sa démarche raisonnante. Vous voyez, c'est comme quand on monte sur les grandes montagnes, en Everest. Il y a deux manières de monter. Ou bien vous faites des camps de base. Alors vous installez 6 camps de base. Alors vous mettez 2 ans pour monter en haut parce qu'à chaque fois vous avez 200 ou 300 personnes et il faut monter des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériel. Et progressivement vous arrivez à monter. Alors là vous êtes sûr que vous allez. Enfin des fois vous n'êtes pas sûr parce qu'au bout d'un certain temps tout le monde est fatigué. Ou bien ce que font de plus en plus de gens, vous partez à 2 tout seul. Mais vous avez 1 mois pour faire l'aller-retour. Sinon vous êtes sûr que vous ne redescendez plus. Eh bien, la découverte de l'existence de Dieu, elle est plus proche de cette manière de travailler que de celle des, vous voyez, avec les camps de base. Je dis ça parce que c'est pour avoir, comme on n'en a pas l'évidence, hein, de l'existence de Dieu, et que notre intelligence, elle est encore un peu endormie, qu'on sache au moins que s'il y a une possibilité pour l'intelligence, c'est dans sa, vous voyez, dans son réalisme et dans la vitalité de son lien avec le réel. Vous voyez, pour prendre un langage contemporain, la découverte de l'existence de Dieu, c'est une démarche existentielle de l'intelligence. Ce n'est pas une démarche abstraite. Voilà. Et le problème, c'est que pour nous, notre intelligence, ça reste quelque chose d'abstrait. Tant que ça reste quelque chose d'abstrait, que ce n'est pas quelque chose de vital, qui a besoin de se développer encore plus que les poumons et vous voyez, le système sanguin et les muscles, bah, tant que ce n'est pas quelque chose de plus vivant, on est à côté, vous voyez, ça ne veut rien dire pour nous, la découverte de l'existence de Dieu. Et du coup, on le verra, il y a des chances que la foi elle-même, elle en prenne, vous voyez, un coup dans l'aile, parce que si au fond, il n'y a pas quelque chose en nous qui est fait pour contempler Dieu face à face, dans ce qu'il est, bah, la foi est un peu, elle est un peu ramollie. On verra que la foi, elle est présente, elle est l'élan de l'intelligence qui veut, vous voyez, qui attiré par Dieu, se laisse attirer par la lumière de Dieu. Donc si je ne sais pas du tout qu'il y a en moi quelque chose qui est fait pour ça, et que je découvre qu'il y a en moi, que ce qu'il y a de plus profond en moi, qui est mon esprit, il est fait pour voir Dieu face à face. Si je ne le découvre pas, il y a des chances que quand Dieu m'invite à le contempler, oui, je ne suis pas très intéressé. Alors, cette dernière précision, vous voyez, cette possibilité pour l'intelligence de découvrir Dieu de manière analogique, ana, ça veut dire vers le haut. C'est ce qui passe par-dessus la logique. C'est vrai, Anna, c'est le mouvement. Nabalain, c'est monter vers le haut. Alors, ce n'est pas non plus l'intelligence intuitive. Hein. Parce que l'intelligence intuitive, elle est. L'intuition peut aider. C'est vrai, quand on est en face de la beauté de l'univers, il peut y avoir un certain pressentiment affectif et intuitif de l'existence de Dieu. Mais l'intuition, si vous voulez, elle est pas assez rigoureuse, l'intuition. C'est quelque chose de trop aléatoire, l'intuition. Oui, c'est comme en montagne. On peut avoir de l'intuition quand il s'agit de monter sur un rocher à Fontainebleau. Ça ne suffit pas l'intuition pour arriver jusqu'en haut de l'Everest. Vous voyez, jusqu'en haut de l'Everest. Il faut une rigueur beaucoup plus grande que celle de l'intuition. Sur des petites choses, on peut avoir de l'intuition. Mais dès qu'il s'agit, vous voyez, je dirais, d'un regard de sagesse, d'une entrée en profondeur dans ce que c'est que la réalité, on ne peut pas se suffire de l'intuition. Alors enfin, vous voyez, du coup, il n'y a pas de continuité entre la réflexion scientifique, aux sciences, des sciences positives modernes, et la découverte de l'existence de Dieu. Vous voyez, contrairement à ce que... Parce que la tentation, c'est toujours de dire, voilà, le Big Bang, la biologie et tout plein d'autres choses sont des choses merveilleuses qui nous montrent avec évidence que Dieu existe. Mais nous montrent rien du tout. Elles nous montrent qu'il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre et que l'homme est dépassé complètement par la richesse du réel qui l'entoure. Mais ça ne lui montre rien du tout. Ensuite, ce n'est pas le scientifique qui dit que Dieu existe. C'est le croyant ou l'homme qui s'interroge sur l'existence de Dieu. Mais il n'y a pas de continuité entre les deux. Le scientifique n'est plus scientifique quand il commence à parler de Dieu. Vous voyez, il dépasse sa science. Comprenez, quand vous regardez la structure de l'ADN ou la structure des étoiles, je suis désolé, mais il n'y a personne derrière. Ce n'est pas une voie d'accès. La matière comme matière n'est pas une voie d'accès à Dieu. Alors, pour celui qui pressent l'existence de Dieu, la science peut le confirmer dans la beauté de l'univers. Et à ce moment-là, c'est la beauté de l'univers. La beauté, elle me conduit à Dieu. Mais pas la structure mathématique, vous voyez, pas la structure matérielle. Et c'est pas la même chose, la beauté de l'univers et la structure matérielle. Quand vous dites comme c'est beau l'électron qui gravite autour du proton, c'est très bien, mais c'est l'image que vous en faites qui est belle et qui effectivement correspond à ce que vous imaginez au temps des astres, parce que vous avez jamais, enfin, comme on n'est pas allé sur la Lune, nous on n'a pas vu le Soleil tourner autour de la Terre, ce qui doit être très beau. Mais vous voyez, effectivement, je dirais il y a une espèce la Terre tourne autour du Soleil. Oui, parce que pour nous, effectivement, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et que c'est vrai que par nous-mêmes, c'est très difficile de s'apercevoir que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. On a besoin de la science. Vous voyez, alors ça, c'est important de le découvrir, d'y réfléchir et de bien voir, vous voyez, que l'Église est très prudente là-dessus. La science, elle enrichit mon regard sur l'homme. Et elle peut me faire contempler, pas à travers la science, mais le regard scientifique vient confirmer, vient éveiller mon intelligence à la grandeur de ce qu'est que l'homme. Mais ce n'est pas dans le prolongement de la science que se pose le problème de Dieu. C'est dans le prolongement de l'homme. Et la science, elle ne regarde pas l'homme comme tel. Elle regarde l'homme sous un certain rapport. L'homme en tant que réalité matérielle, l'homme en tant que réalité biologique. Mais elle ne regarde pas l'homme pour l'homme. Et il n'y a que l'homme pour l'homme qui véritablement me conduit à Dieu. Et la beauté de l'univers. Mais il faudrait voir, vous voyez, comment est-ce que, même si on s'en rend plus compte, la beauté de l'univers, s'il n'y avait pas l'homme, vous voyez, elle n'aurait pas cette grandeur. Et qu'au fond, quand on contemple la beauté de l'univers et qu'elle nous fait penser à Dieu,